Troisième temps de notre série consacrée au Front populaire et aux 80 ans de ce Front populaire. Ce matin, nous évoquons des travaux récents sur cette période. Pour ce troisième temps, nous allons nous demander comment les historiens et les historiens de l'art débattent peut-être de ce Front populaire aujourd'hui avec Séverine Yatard qui a préparé cette série avec nous, avec Jean Vigreux, il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et il vient de publier chez Talendier une histoire du Front populaire sous-titrée « Les chapées belles ». Hélène de Talouette sera également avec nous, elle a soutenu sa thèse en histoire de l'art l'an dernier autour de la figure de Georges Huysmans, directeur général des Beaux-Arts de 1934 à 1940, et nous serons en duplex depuis France Bleu Besançon grâce à la technique de Michel Bezinger avec Corentin Lahu qui est doctorant à l'Université de Bourgogne pour une thèse consacrée au Secours Rouge International qu'il rédige après avoir conçu un mémoire de master sur la commémoration de la Commune par le Parti communiste français, en particulier pendant ce Front populaire. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour à vous Hélène de Talouette. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous Corentin Lahu, vous êtes en duplex depuis Besançon.
Bonjour.
Et bonjour à vous Jean Vigreux, et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'histoire du Front populaire, donc paru chez Talendier. Alors, on peut se dire, tout compte fait, un anniversaire, c'est l'occasion d'une avalanche de livres sur le sujet. Citons Thérèse, le grand amour caché de Léon Blum, chez Alma, par Dominique Messica. Citons également Serge Volikov, le monde du Front populaire, c'est chez Au Cherche Midi. Citons le livre paru aux chaînes, un beau livre, Les victoires du Front populaire, avec un texte de Nicole Masson, mais aussi la réédition de Tal Brutmann et de Laurent Joly, La France anti-juive de 1936. Mais cette avalanche de livres ne dit pas forcément un renouvellement historiographique considérable. Qu'en est-il justement du regard porté sur ce Front populaire et de la façon dont on peut travailler en historien sur cette période historique, Jean Vigreux ?
Alors plusieurs réponses, même s'il y a toujours le moment de la commémoration et des anniversaires, on est d'accord, mais quand même il y a un renouveau historiographique en liaison avec l'émission de lundi. Puisque l'ANR
Paprika, ah ouais, dont vous Paprika, êtes aussi
a permis.
Il faut préciser pour ceux qui n'ont pas écouté
c'est
lundi.
Le portail d'archives politiques de recherche d'indexation des fonds du Comintern, c'est-à-dire les archives concernant le Comintern et la France qui sont mises en ligne, hein, plus de 500 000 pages numérisées, mais aussi avec les archives nationales, et c'est ça le partenariat qui est nouveau et qui est important, les archives de surveillance de police, voire de répression, hein, la série Z4 pendant la période de Vichy où on arrêtait les communistes, et on les arrêtait parce qu'ils étaient militants communistes en tant que tels. Mais dans ce qui est saisi, eh bien, on a des archives du Front populaire. Et c'est très intéressant, le retour de ces archives, on peut parler aussi des archives qui avaient été saisies par les soviétiques aux nazis en 1945, les archives Léon Blum, Cécile Brunjvic, de la Ligue des droits de l'homme, du Grand Orient de France, de la CGT, de l'ensemble des organisations qui ont participer au Front populaire. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être des logiques déjà de renouvellement, même si, bien sûr, l'archive ne fait pas tout.
Voilà, ça n'est pas parce qu'on trouve un fonds d'archives qu'il y a un renouvellement historique.
Voilà. Alors, le renouvellement, on peut peut-être aussi le penser sous différents lieux, différents champs. Tout d'abord, me semble-t-il, c'est celui d'une histoire connectée, de penser une histoire du Front populaire non pas comme un isolat en France, mais comme d'abord, bien sûr, un mouvement antifasciste international, hein, du fait de la poussée et de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, hein, l'onde de choc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Et puis il y a aussi les Frente Popular d'ailleurs.
Frente Popular en Espagne, au Chili. On peut penser donc différentes logiques d'alliances qui se jouent par rapport à la crise économique et sociale, mais aussi par rapport à la montée des fascismes. Donc c'est cette logique-là. Et puis les réponses aussi, le gouvernement Léon Blum, par exemple, comment il va s'inspirer aussi, peut-être en tout cas, me semble-t-il, du New Deal de Roosevelt. Donc il y a ces enjeux, il y a les circulations aussi
des transferts.
Ces circulations aussi de personnes, des réfugiés, les réfugiés anti-nazis, les réfugiés qui arrivent aussi d'Espagne au cours de la période. Donc il y a tous ces enjeux.
C'est problématique aussi, Jean Vigreux, peut-être par rapport aux colonies.
Ce
qui est quand même un des grands chantiers en cours et à mener
sont les sociétés coloniales. On ne peut pas penser le Front populaire simplement dans l'Hexagone. il faut le penser à différentes échelles, déjà dans l'Hexagone.
Voilà. Hein, parce que vous avez travaillé sur les régions et les recherches continuent.
Voilà, hein, j'ai essayé de placer des enjeux sur le monde rural, parce que l'image collective qu'on a du Front populaire, bien sûr, c'est la photographie des grèves, mais les grèves, elles ne sont pas que dans les usines. C'est aussi le prolétariat rural qui est en grève.
D'autant plus, avait travaillé sur ce sujet.
Édouard avait travaillé, d'autres aussi ont travaillé. Toute une historiographie a été importante sur le sujet, même Jean-Claude Farcy avait pensé ces aspects-là. Donc il y a les enjeux de la ruralité, les points aveugles, comme disaient Michel Margueras et Daniel Tartakovsky, qui étaient les colonies et les femmes. Hein. Bon, les femmes, vous avez aussi présenté quelque chose d'important et un livre remarquable sur le sujet. Donc il est clair que ces points aveugles de l'historiographie permettent d'émerger. Et en même temps, ce que je disais à l'instant, l'idée du jeu d'échelle, ne pas penser simplement le Front populaire au niveau, on va dire vite fait, de la capitale Paris, mais de le penser à l'usine, dans l'atelier, dans la ferme, bref, dans tous les endroits, et bien sûr dans les sociétés coloniales.
Et je pensais aussi, alors là, il s'agit pas de micro local, mais de travailler davantage peut-être sur les opposants aussi au
bien
Front
sûr.
Populaire, parce que alors. Ça avait déjà été largement esquissé, peut-être travaillé dans les deux France du Front populaire. Hein. Il y avait certains articles justement sur la droite, les patrons,
l'Église.
Les Fronts populaires, les problématiques de l'Église. Enfin, ce que vous traitez d'ailleurs dans le dernier chapitre, un petit peu de votre ouvrage sur intitulé donc une autre histoire du Front populaire.
À chacun son Front populaire.
Ouais, non, et donc voilà. Enfin, ça en tous les cas. Il y aurait beaucoup de choses à faire, pour avoir une autre vision aussi de ce fameux Front populaire.
Oui, faut le regard de l'autre. Faut le regard de l'autre. On peut pas penser la construction d'une culture politique sans penser à l'adversaire et un adversaire qui ne désarme pas. Ça nous amène aussi à penser, me semble-t-il, la logique d'une temporalité courte que représente le Front populaire. Bien sûr, l'arrivée au pouvoir, c'est avril-mai 1936. Léon Blum prend le gouvernement le 6 juin 1936. Enfin, le 4 juin, on sait qu'il va le faire. Et le 6 juin, il est investi. Et ça dure, en fin de compte, jusqu'en avril-mai 1938. C'est à peine 2 ans. Quand aujourd'hui, on dit qu'un quinquennat, c'est trop court, etc. Ben là, on a 2 ans et 2 ans qui vont marquer durablement, me semble-t-il, la vie française. Mais avec des tensions très fortes, une bipolarisation très forte, ce qui change totalement la vision qu'on avait de la Troisième République, où le parti radical gouvernait tantôt à gauche, tantôt à droite. Et bien dorénavant, on a deux Frances qui s'opposent, selon le colloque que vous citiez tout à l'heure, que Gilles Morin et Gilles Richard avaient dirigé il y a déjà quelques années. Mais en revanche, me semble-t-il, l'intérêt qui est porté non sur les ligues, mais sur les partis qui naissent de ces ligues, les droites dans le champ magnétique des fascismes, même une partie de la droite qui refuse cela, la RD qui va du coup faire tomber le Front populaire en s'alliant avec les radicaux, mais on arrive peut-être à mieux mesurer les enjeux de tension, parce que derrière l'image du bonheur, de la joie, de tout ça, on a quand même une conflictualité très forte, des tensions très fortes qui marquent durablement la société.
Et vous évoquez aussi, on a une idée un petit peu traditionnelle de comme quoi les intellectuels auraient été tous en faveur du Front populaire.
Et là, s'en faut.
Voilà, vous évoquez cette problématique qui avait déjà été travaillée un peu par Christophe Charles
sur
les universitaires.
Bien sûr.
En fait,
et je reprends.
Un grand milieu traditionaliste.
Oui, un grand milieu conservateur par essence.
Voilà. Rappelons que Maurras entre à l'Académie française en 1938.
Voilà, c'est ça. Donc on est bien au cœur d'un monde intellectuel divisé, et puis pas forcément majoritairement du côté du Front populaire. Mais ça, c'est peut-être aussi, me semble-t-il, le temps des mémoires des Fronts populaires qui ont joué sur une représentation du mouvement ouvrier. On a mis en scène le mouvement ouvrier, donc le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Mais en même temps, quand on regarde de plus près sur la société, c'est pas si simple que ça. Et la présentation, enfin, me semble-t-il, le renouveau historiographique, c'est de penser ces rapports de force.
Mais tout de même, ce qui est important aussi, quand on vous lit dans votre histoire du Front populaire, Jean Vigreux, le sous-titre s'appelle L'échappée belle, c'est de se demander pourquoi, au bout du compte, il reste des images aussi fortes et des images qui, au bout du compte, ne peuvent pas être transformées par le travail des historiens. Je me souviens d'avoir discuté il y a déjà 15 ans avec Madeleine Norberriou qui me disait, mais tout le monde nous raconte les congés payés l'été 36. Or, quand on regarde la chronologie du vote des congés payés, c'est donc au tout début de l'été, il y a quelques centaines de milliers, peut-être même pas d'ailleurs plusieurs centaines de milliers, quelques dizaines de milliers de billets SNCF qui sont arrachés à la SNCF, qui s'appelle pas encore la SNCF d'ailleurs, à ce moment-là, pour pouvoir permettre à des ouvriers de partir en vacances, etc. Mais ça touche très peu de monde, cet été 36. Or, tout le monde, aujourd'hui, sort des albums sur l'été 36, alors qu'au bout du compte, c'est plutôt l'été 37 oui. qui aurait été le grand moment des congés payés du Front Populaire.
C'est en partie vrai. Parce que quand même, et c'est là, me semble-t-il, la marque de fabrique de Léon Blum et de son gouvernement, c'est « on va vite ». On prend très vite les mesures et il y a un volontarisme affiché, ce que Nicolas Rousseli a très bien montré également récemment. N'oublions pas qu'il y a en gros 10 millions d'ouvriers salariés en France et 600 000 quand même prennent les billets à l'été 36 parce qu'on doit les prendre entre juillet et septembre. Il y a quand même 600 000 billets qui sont vendus, alors pas simplement de train, hein, ça peut être d'autocar, hein, n'oublions pas qu'il y a aussi ces logiques-là, mais c'est vrai, ça ne fait qu'augmenter. On est à 900 000 en 1937 et après c'est 37-38 où ça va exploser en tant que tel, où ça devient une habitude. Mais ces congés payés, c'est la première fois hein, de ces jours que l'on a de repos, bah souvent, la plupart du temps, on n'a pas les moyens de partir. On reste chez soi. Et c'est pour ça que vous avez aussi ces photographies en bord de Marne, de Seine, etc., qui montrent bien aussi une logique d'appropriation d'un espace qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, celui qui était offert seulement le dimanche.
Oui, et c'est donc le dimanche au bord de l'eau, par exemple. Voilà.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche.
Évidemment, Jean Gabin pour Quand on se promène au bord de l'eau. Et La belle équipe de Julien Duvivier, ce film aux deux fins, donc une fin optimiste et une fin pessimiste qui donc alterne selon les publications de DVD. Alors nous continuons notre débat avec vous, Séverine Attard, sur les nouveaux travaux sur le Front Populaire. Et une des questions qu'on peut se poser avec vous, Hélène de Talouette, bonjour, c'est de savoir s'il y a continuité ou rupture, puisque vous avez fait donc un travail d'historienne de l'art sur un personnage qui s'appelle Georges Huysmans, qui est un républicain de la Troisième République, et il est devenu directeur général des Beaux-Arts, ce qui était un poste très important dans cette République des Arts et Lettres, en 1934, donc deux années avant le Front Populaire. Mais il deviendra un des meilleurs soutiens, pourrait-on dire, en vous lisant, du Front Populaire donc pendant la période de 1936-1938, puisqu'il sera très proche, je ne sais pas s'il se connaissait auparavant, mais il sera très proche du ministre de l'Instruction publique ou de l'Éducation, qui était Jean Zay, et qu'il va appliquer la politique de Jean Zay dans le domaine des Beaux-Arts, qui est celui qu'il gouverne en tant qu'administrateur, pourrait-on dire, puisque c'est une grande administration que vous nous décrivez, qui s'est structurée tout au long de la Troisième République. Alors, on peut se poser, évidemment, quand on travaille comme ça en prosopographie sur un personnage comme Georges Huysmans, on peut se poser simplement la question, est-il un homme du Front populaire? Est-il un homme d'avant le Front populaire qui se convertit au Front populaire? Quel est le rapport justement entre son action et l'action du Front populaire, Hélène de Talouette?
Alors, moi, l'impression très très précise que j'ai eue en travaillant sur cette personnalité, c'est que c'est un homme qui a eu la chance de se trouver sous ce gouvernement du Front populaire avec des idées qui étaient là avant, et tout d'un coup, on démarre et on démarre très vite. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de sa politique grâce au Front populaire.
Vous voulez dire qu'il est dans une sorte d'attente avant ?
Bien entendu, et cette attente d'avant, elle date de 1918. C'est-à-dire que c'est un homme, c'est une génération. C'est un personnage intéressant parce que c'est un personnage qui est coincé entre les deux guerres. Il fait la première, il va se cacher pendant la seconde, mais c'est un jeune homme de la Première Guerre mondiale. Mmh. Donc il est un jeune homme à la différence de Jean Zay, qui lui, au contraire, va être belliciste parce qu'il va attendre sa guerre, son héroïsme.
Il faut rappeler que Jean Zay est le premier,
voilà,
le plus jeune.
Et il va s'engager en 39, hein, alors que Huysmans, c'est différent, il va être plus pacifiste d'une certaine manière pendant l'entre-deux-guerres. Mais lui, c'est un jeune homme de 1918 avec des aspirations modernistes, collectives extrêmement importantes, et cette volonté d'une action publique et d'une action républicaine très très forte. Et donc il va initier, c'est une politique du fait accompli, il va initier dès 35 des choses très importantes, et puis il va avoir un souffle que va lui apporter le gouvernement.
Alors, il faut dire que la crise est une crise qui frappe toute la France, mais qui frappe aussi le domaine de référence, qui est le domaine de Georges Huysmans, à savoir l'art, les artistes, et qu'en arrivant à ce poste, qui est un poste important de directeur général des Beaux-Arts en 1934, il découvre un milieu qui est un milieu sinistré, le milieu des artistes, qui a beaucoup de mal à vivre. Il est lui-même une sorte d'historien d'art. Il a créé une grande collection qui s'appelle À travers l'art français quelques années auparavant. Et il va donc tenter de donner du travail aux artistes, un peu comme le fait d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure cela à propos de Roosevelt, comme le fait le gouvernement Roosevelt pendant la grande crise, où on crée des grandes fresques murales. Et d'ailleurs, il va lui-même lancer des grandes fresques murales pour pouvoir donner du travail aux artistes. Et pendant toute cette période du Front populaire, il va être initiateur justement d'une sorte de commande publique aux artistes de son temps, Hélène de Talouette.
Oui, et il va commencer ça en 1935 dans son lycée, au lycée Janson de Sailly, avec des fresques qui sont encore sur place. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il arrive avec le chômage des artistes. Alors, c'est un homme, on a un déficit mémoriel énorme sur cette personnalité.
Parce qu'il n'a pas écrit de mémoire.
Parce que lui n'a pas laissé de mémoire. Il a laissé un texte qui est extrêmement important, qui s'appelle une conférence qu'il a donnée devant les étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts. Donc, en tant que directeur général des Beaux-Arts, il est d'une certaine façon académique, mais il s'adresse à la jeunesse.
C'est une sorte de ministre de la Culture, on peut
exactement,
dire quand même.
Exactement, il est précurseur. Il est rue de Valois. Ses photographies sont prises dans le bureau du ministre rue de Valois. On est vraiment complètement dans une continuité avant et après, finalement, quand on regarde sa personnalité. Et ce discours de Pleyel, ces nouveaux rapports de l'art et de l'État, sont très importants parce que, justement, une grosse partie est à la fois liée à un traumatisme typiquement français, qui est cet État français qui a raté les impressionnistes. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de rater l'art vivant. Et puis, cette question de la place de l'artiste dans la société et, effectivement, des commandes publiques qui va être une réponse au chômage des artistes.
Alors, les rapports de l'art et de l'État. Et puis, alors, ce qui est, moi, je trouve aussi assez passionnant, c'est comment, selon lui, l'art aussi peut aider à la démocratisation. Enfin, d'abord, il faut démocratiser, évidemment, l'art. Et puis, à l'enseignement. Il est très intéressé aussi par la pédagogie. Il propose même l'école unique. Vous le dites, juste après la Première Guerre mondiale. Donc, le collège unique, c'est-à-dire tout le monde doit avoir accès à la même école. Il ne doit pas y avoir de différence entre les classes aisées et les classes populaire, et ça c'est, et donc l'enseignement de l'art et la visite au musée,
qu'il a pratiqué lui-même en tant que professeur,
doit aider à cette
il a un profil tout à fait méritocratie républicaine, il est comment dirais-je, j'ai fait toute sa scolarité à Janson de Sailly. En Hippocagne, il y a Louis le Grand, il y avait l'école des Chartes, il est agrégé d'histoire, donc il va être complètement sur le terrain. Et par rapport à Jean Zé, c'est intéressant, c'est que pour le Parti radical en 24, c'est lui qui est rapporteur pour l'éducation nationale. Donc il a travaillé sur ces questions, les filles à l'école aussi, enfin il est très moderniste sur toutes ces problématiques de l'éducation nationale. Il va publier avec sa femme une histoire de l'art pour les enfants, qui est une traduction d'un livre américain. Donc il est quand même dans ces questions très attentif à toutes ces questions-là. Pour rejoindre ce que disait Jean Vigreux, je trouve que ce qui est très intéressant et ce qui est aujourd'hui quand on travaille sur cette période-là, c'est de pas être uniquement sur le regard français. Et moi, un de mes grands plaisirs dans mon travail de la thèse, c'est de me baser sur de prendre comme pilier à la fois son discours à lui, c'est-à-dire les nouveaux rapports de l'arrêt de l'État, mais aussi de prendre l'enquête de la BBC qui a été s'appelle Up and the State, ouais, qui a été manigancée par le groupe de Bloomsbury, ce qui est quand même assez incroyable, qui est un groupe qui est très actif plutôt autour de la Première Guerre mondiale. Et c'est Keynes qui va être à la houlette de cette enquête et qui va s'interroger sur cette question des rapports de l'art et de l'État dans les pays démocrates et dans les pays évidemment soit fascistes soit communistes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Huysmans se trouve pris à la fois au piège et pris dans l'action de la diplomatie culturelle qui est vraiment pour moi naissante dans cette période d'entre-deux-guerres. Et donc il faut voir les enjeux et le courage que ça représente de se positionner là-dessus. Et
c'est, cette diplomatie culturelle, c'est celle qui fera échouer, malheureusement, par la guerre, le premier festival de Cannes, celui qui est voulu par Jean Zé, et qui se veut une sorte de contre-festival de cinéma, tel qu'il était présenté à la Mostra de Venise par les fascistes, par
exemple.
Exactement.
Et là, on est complètement dans la continuité aussi, à la fois dans le précurseur et la continuité, puisque Cannes est à la fois quelque chose de l'exception culturelle française, déjà, une résistance au fascisme, et puis également une politique avec les États-Unis, puisque les États-Unis sont très très importants dans cette conception du Festival de Cannes de 1939.
Jean Vigreux, par exemple, dans ce que vient de dire Hélène de Talouette, cette migration des images, par exemple, et en particulier de ce travail des muralistes mexicains, de Diego Rivera, dont on sait les rapports qu'il peut avoir avec Trotsky par ailleurs, et les surréalistes avec André Breton, mais aussi la migration de ces images venues du Mexique dans la Californie du New Deal de Roosevelt, et puis les mêmes images, ou plus ou moins, travaillées par des Fernand Léger à Paris, mais aussi des représentations muralistes dans l'Union soviétique de ces années-là, ou l'Allemagne nazie de ces années-là, ou l'Italie fasciste, tout ça, ça peut être aussi un travail très intéressant pour historiens ou pour historiens d'art, Jean Vigreux.
Oui, bien sûr, c'est la rencontre là, des deux, à la fois sur les logiques de contexte, mais sur les logiques aussi de champ artistique. On peut penser au même moment, en mars 1936, en Tchécoslovaquie, a lieu un grand festival de la photographie. Donc il faut penser tous les arts. Et ça permet d'avoir des enjeux de dialogue sur la place de l'artiste dans la société. Et c'est la question, en mars 36, en Tchécoslovaquie, de ce grand congrès. Et puis on va le revoir, bien sûr, avec l'exposition universelle de 1937. Alors, bien sûr, on a encore
International.
Et dans cette logique où on a cette opposition des deux pavillons
nazis d'un côté
et soviétiques de l'autre. Mais en même temps, c'est là où Guernica est présenté. Donc là, il y a aussi des logiques autres. Et puis même le petit village de Romney en Saône-et-Loire, c'était ma collègue Annie Ruget qui avait présenté ça. Comment on va reprendre un petit village pour le montrer, c'est quoi la France rurale? Alors sans le clocher de l'église, avec toutes les logiques que l'on peut avoir, qui peuvent exister, mais vraiment ce
c'est
jeu
vrai
d'échelle
village
totale,
sans le clocher de l'église, c'est déjà un peu amputé. Ouais,
c'est amputé, mais en même temps, ça participe, me semble-t-il, de toute cette de ce bouillonnement, de ce volontarisme et de ce jeu d'échelle complexe.
Et en même temps, c'est cette problématique des arrêts traditions populaires aussi,
qui met
en valeur évidemment sous fond populaire. Avec Georges-Henri Rivière. Ouais,
c'est la redécouverte du peuple. Dans Front populaire, il y a peuple quand même.
Je me sens comme une banque. Et pourtant, je n'ai ni livres, ni dollars, ni sous, mais je me sens comme une banque. Tout en étant pauvre comme un toutou, oui, je me sens comme une banque. J'ai pourtant pas de compte, ni même de crédit, mais je me sens comme une banque. Qui aurait 10 millions de profits, j'ai trouvé ce matin. un petit Dieu lutin qui m'a dit l'ermitain. Il faut vite ouvrir tes portes, c'est l'amour que je t'apporte et je me sens comme une banque. C'est le bonheur qui m'arrive car c'est bien mon tour et je me sens comme une banque. Est-ce vous, est-ce moi, c'est l'amour? Vous savez, 3 ou 4 millions, non, jamais ne remplaceront un beau garçon. Un regard, un sourire, tout d'abord, deux bras qui vous serrent bien fort, valent tous les trésors. Je me sens comme une banque, et pourtant je n'ai ni lit, ni dollar, ni sous, mais je me sens comme une banque, tout en étant pauvre comme un toutou. Oui, je me sens comme une banque. Je n'ai pourtant pas de compte, ni même de crédit, mais je me sens comme une banque qui aurait 10 millions de profits. J'ai trouvé ce matin un petit Dieu lutin qui m'a dit l'ermitain. Il faut vite ouvrir tes portes, c'est l'amour que je t'apporte. Je me sens comme une banque. C'est le bonheur qui m'arrive, car c'est bien mon tour, et je me sens comme une banque. Est-ce vous, est-ce moi, c'est l'amour.
...9h33 sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, troisième numéro d'une série, puisque hier nous n'avons pas pu diffuser pour raison de grève la balade que vous aviez réalisée, Séverine Attard, voilà, avec Séverine Cassard, dans l'exposition du Musée d'Histoire Vivante de Montreuil autour de la photographie, et vous aviez participé à cette exposition.
Avec Éric Lafont et Frédéric Sépène, hein, voilà. C'est une entreprise collective.
Voilà. Exactement, et donc nous diffuserons cette balade à la rentrée, on ne sait pas encore exactement dans quel cadre. Mais nos auditeurs pourront l'écouter puisque cette exposition du Musée de l'Histoire Vivante de Montreuil en région parisienne durera jusqu'à la fin du mois de décembre prochain. Alors nous continuons notre débat consacré à ces renouvellements historiques ou historiographiques autour du Front Populaire. Hélène de Talouette, tout de même, ce que vous racontez dans votre thèse sur Georges Huysmans, donc directeur général des Beaux-Arts entre 1934 et 1940, c'est le volontarisme considérable de ce type d'homme d'État, pourrait-on dire, ou de grand commis de l'État, qui était Georges Huysmans, à son poste-là, et cette idée qu'il faut à la fois que la France soit grande, qu'elle soit grande avec ses artistes, et qu'elle, disons, fasse la promotion de son art à l'étranger, de cet art français auquel il avait consacré une collection de livres, et il va le faire par intermédiaire de cette exposition internationale de 1937, évidemment, qui va être un grand moment de récollection, pourrait-on dire, de l'art de l'époque, mais aussi par tout un tas d'autres initiatives, Aline de Talouette.
Et encore une fois, avec une grande cohérence avec Jean Zay, hein, pendant la période du Front Populaire et après, une présence de la France internationale extrêmement importante dans les ambassades qui sont redécorées, les artistes qui sont évidemment envoyés à l'étranger. Et puis, cette présence très importante autour de 1937, qui va être à la fois, opportuniste, hein, parce qu'il faut aller vite, donc c'est pas toujours facile et c'est pas toujours compliqué, pardon, et il y a aussi une ambiguïté parfois, parce que quand on parlait de cette question du chômage, dans les arts, elle touche le fait qu'on donne du travail aux artistes français. Donc l'ambiguïté de cette période, c'est par exemple Picasso est en 37 avec Guernica dans le pavillon espagnol. Mmh. Ce serait pas possible que l'État français lui ait commandé une œuvre pour, par exemple, le théâtre de Chaillot. Donc il faut savoir qu'on est comme ça dans une période extrêmement
ambiguë.
ambigu, difficile, et que donc il faut du courage pour quand même faire dans ce contexte-là. Et c'est ce que je pense important qu'il faut signaler de ces hommes-là qui vont être extrêmement critiqués, accusés d'être des traîtres, des déserteurs, parce que et Jean Zay et Huysmans vont monter sur le Massilia. Mais il faut comprendre la complexité
de cette période. Le Massilia, donc rappelons que c'est au moment de la défaite, donc ce bateau qui quitte Bordeaux pour pouvoir tenter de continuer à faire une sorte de gouvernement ou de parlement en exil. Ça ne fonctionnera pas très bien au bout du compte, mais en tout cas c'était une volonté de continuer le combat et de ne pas tomber dans la défaite.
Et je sais pas si
allez-y.
J'ai une autre remarque par rapport à cette question de rapport de l'art avec les artistes à cette période-là. C'est le marché de l'art qui est encore aussi un sujet d'étude très contemporain. Par exemple, Braque est sollicité pour la décoration de Chaillot. Il dit non. Il dit non à haute cœur. Donc Huysmans revient derrière et lui écrit. Et moi, j'ai vu la lettre de Braque en disant je comprends, je vous remercie énormément, mais non, je ne participerai pas. Alors, des Matisse et des Braque, ils sont sur un marché de l'art international à cette époque-là. Ils n'ont pas besoin de travail, eux, à la différence des autres artistes. Et donc, il va y avoir aussi des jeux individuels qui vont se passer. Et par exemple, je consacre un tout petit peu de temps à Marcel Gromer, qui est un artiste extrêmement intéressant.
Absolument.
Parce que c'est un artiste
très important,
à fond.
Qui a fait la Première Guerre mondiale aussi.
Et qui est à fond Front Populaire, lui, vraiment, de façon extrêmement authentique. Donc, on a tous ces jeux d'individualité dans le collectif qui sont très intéressants sur cette période. Et d'un autre côté, dans la continuité, on peut regarder qu'au Cateau Cambrésis, qui est la ville natale de Henri Matisse, un architecte dont Huysmans parle dans son discours Les nouveaux rapports de l'art et de l'État, qui s'appelle Ernest Gaillard, qui est une espèce de mythe du conservateur démocrate et républicain extrêmement, extrêmement ouvert et important dans la question de l'éducation artistique, va ouvrir un musée Matisse, va construire cette école parce qu'il est architecte, et là, l'école maternelle va être décorée par le vitrail de Matisse qui s'appelle Les Abeilles, issu de travaux de recherche sur la chapelle de Vence, et c'est le premier exemple du 1%. Donc on est dans la continuité totale, puisque c'est ces deux hommes, au moment du Front Populaire, parce que Matisse, il regarde quand même ce qui se passe, même s'il n'est pas forcément toujours là. Et là, on est complètement dans une création qui aurait pu avoir lieu en 1936.
Bon, en fait, je voulais rebondir sur la question des... Vous parlez des artistes étrangers, qu'il n'était pas possible de commander un artiste étranger, parce qu'il y a préférence nationale, parce que c'est cette problématique du Front Populaire et de ses étrangers. Vous l'abordez un petit peu aussi, Jean Vigreux, ces problématiques de la police intérieure, enfin, qu'il va y avoir quand même une sacrée surveillance sur le Front Populaire des étrangers.
Il y a une surveillance très forte, ça c'est vrai, mais ça a déjà été mis en place auparavant. Il y a toute la législation. Alors, il y a une certaine continuité, mais quand même pas pour tout. C'est pas si simple que ça non plus. C'est plus complexe parce qu'il y a l'accueil des réfugiés. Il y a l'accueil des antinazis allemands. Les frères Mann, entre autres, sont traduits à ce moment-là. Et donc, il y a aussi des enjeux, je dirais, de dialogue et de recherche. Alors, oui, il y a une pesanteur très forte. N'oublions pas. Et ça ramène à la question.
La police du Front Populaire n'est pas une police spécifique au Front Populaire.
C'est la même police qui était en
34, c'est par exemple.
Dirigée par Max
Dormoy. Elle a sauvé la République.
Bien sûr, elle défend la République.
Donc, c'est pas si simple que cette vision des choses. Mais en revanche, me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce rapport à l'autre, de sa rapport à l'étranger, c'est toute la volonté que l'on a à la fois de contrer aussi le discours très dur au Sénat de certains sénateurs qui disent voilà, c'est des étrangers qui viennent faire grève. Donc il y a quand même des renvois. Il ne faut jamais perdre de vue que Salin Gros va aussi renvoyer des meneurs étrangers pendant les grèves. Alors il y a quelques nombres, ça n'a rien à voir avec le retour des Polonais quelques années auparavant, les trains qui étaient vraiment voulus par les droites au pouvoir. Mais là, on est sur une autre. Une queue de comète, en quelque sorte, du rapport à l'autre. En revanche, n'oubliez pas quand même que dès l'été 1936, dès l'été, j'insiste, et après, bien sûr, 37, on accueille les enfants espagnols. Il n'y a eu jamais autant de solidarité. Certes, il y a la non-intervention, mais le rôle de la CGT, de la Ligue des droits de l'homme, du Secours populaire et plein d'autres font qu'on accueille les enfants espagnols.
Corentin Lahu, vous n'êtes pas encore intervenu, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Besançon. Vous êtes en train de préparer justement une thèse avec Jean Vigreux à Dijon, donc autour de cette question du Secours Rouge International, mais aussi vous avez auparavant fait un travail sur la commémoration de la Commune donc par le Parti communiste français depuis les événements de la Commune jusque donc depuis le congrès de Tours jusque à la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, vous notez, vous, parce qu'on a parlé beaucoup de continuité républicaine pour le personnel qui est avant le Front populaire et pendant le Front populaire, mais aussi certaines ruptures, en particulier dans l'attitude du Parti communiste français vis-à-vis de cet événement et de cette commémoration de la Commune. Évidemment, 1934, les manifestations de 1934, mais aussi la nécessité de changer de politique sous l'influence du Comintern pour le Parti communiste français, et donc de faire en sorte que on fasse une alliance qui deviendra le Front populaire, un rassemblement populaire qui va devenir le Front populaire, change la vision même de l'histoire. C'est-à-dire on va faire re-rentrer la prise de la Bastille 1789 dans le panthéon communiste, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, Corentin Lahut.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que le Parti communiste français devient le laboratoire de la nouvelle ligne politique et de la stratégie de Front populaire qui est adoptée par le 7e congrès de l'International communiste en 1935. Et cela induit d'énormes répercussions sur la manière de commémorer un certain nombre d'événements historiques, dont la Commune de Paris. Puisque donc durant les années 20, le souvenir de la Commune de Paris est omniprésent et fait partie intégrante de l'identité de la culture communiste.
Il faut rappeler que jusque dans les années 37-38, il y a encore des survivants de la Commune de Paris. On commémore, on fait des banquets autour de ceux qui ont participé. Ils étaient jeunes à l'époque, mais on est à 70 ans de la Commune de Paris tout de même. Et donc il y a une sorte de participation populaire, pourrait-on dire, autour de ces figures qui sont les derniers survivants de la Commune de Paris. Donc il y a aussi une présence physique de ces communards dans l'espace politique du Parti communiste français.
Oui, tout à fait, avec des vétérans de la Commune qui sont en permanence mis en avant, notamment dans les manifestations au mur des fédérés. Ils sont en première ligne et ils jouent ce rôle de transmission de la mémoire auprès des nouvelles générations de militants. Et donc le Parti communiste en fait établit une filiation directe entre la Commune de Paris et la Révolution d'octobre 17. Et il renouvelle en profondeur le mythe qui existait avant-guerre, puisque la Commune qui auparavant était vue comme crépuscule devient finalement aurore et annonciatrice de la Commune victorieuse russe. Et donc ça a aussi des implications dans la manière dont les communistes commémorent dans la rue cet événement historique, puisque donc les communistes reprennent la vieille tradition du mouvement ouvrier de défiler chaque année à la fin du mois de mai devant le mur des fédérés pour commémorer la Commune. Et durant les années 20, ces manifestations, qui sont généralement à une époque où les manifestations de rue sont interdites, ces manifestations au mur des fédérés sont en fait l'occasion pour le Parti communiste de se mesurer aux autorités et de tester de nouveaux dispositifs d'occupation de la rue, notamment dans le domaine de l'autodéfense. Donc tout ça lié à la stratégie classe contre classe qui est celle de l'International communiste à cette
époque. Il faut rappeler que cette stratégie veut justement qu'il n'y ait pas d'alliance au départ dans les années 20 et au tout début des années 30 entre les communistes internationalistes et les partis bourgeois. Et donc il y a une rupture et que justement en 1934, les manifestations de février vont changer la donne et vont faire en sorte qu'on va à partir de ce moment-là avoir une autre politique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence justement dans la commémoration de la Commune entre 1934, 35, 36 et pendant le Front populaire, et comment le Parti communiste fait-il pour pouvoir un peu changer un tout petit peu la donne et faire en sorte qu'on dise autre chose sur la Commune que ce qu'on disait auparavant, Corentin Lahut?
Alors, ben justement, donc c'est vrai qu'avant 1934, le cimetière du Père-Lachaise devient en fait le terrain d'un affrontement symbolique, mais pas que, parfois aussi physique, entre les communistes et les socialistes qui s'affrontent pour avoir la paternité en fait de cette commémoration. Et après 1934 et le tournant qui est opéré progressivement par le Parti communiste avec la stratégie de Front populaire, la culture politique communiste se trouve profondément modifiée. Et la référence nationale est placée au cœur de l'action et du discours du Parti communiste.
C'est pour ça qu'on voit réapparaître la Bastille, par exemple.
Tout à fait. Et le souvenir de la Révolution française va progressivement supplanter celui de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris est désormais célébrée que pour ses aspects avant tout patriotiques et républicains. Mmh. Et paradoxalement, les commémorations de la Commune à travers les manifestations du Père Lachaise connaissent à ce moment-là une ampleur jusqu'alors inégalée, puisque c'est le retour de l'unité avec les socialistes, donc Parti communiste et socialiste défilent ensemble devant le mur des fédérés, et notamment en mai 1936, la manifestation au mur des fédérés devient en fait la manifestation de la victoire du Front populaire, et va rassembler, selon l'Humanité, 600 000 personnes, donc pour
ça, c'est un peu comme monstres, ça c'est un peu comme la police et les manifestants
tout
aujourd'hui.
Tout à fait, c'est 110 000 selon la préfecture et 600 000 selon l'Humanité. Les organisateurs.
C'est ça, voilà.
Mais cette manifestation va en fait avoir un très grand rôle dans la suite des événements du Front populaire, puisque cette manifestation joue un rôle de catalyseur finalement du mouvement social. Dans les jours qui suivent, les grèves vont à nouveau encore s'amplifier suite à cette manifestation. Et on a là l'expression de la fameuse expression du ministère des masses exercé par le Parti communiste, comme l'évoquait quelques jours plus tôt Paul Vaillant-Couturier.
Mmh. Alors, et tout de même, on réactive aussi ce souvenir de la Commune parce qu'il faut bien des ennemis. Et les ennemis, ce ne sont plus les Versaillais. On dit les Versaillais d'hier et ce sont les Hitlériens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait dans le discours de Lucien Sempé ou dans les écrits de Lucien Sempé dans l'Humanité en mars 36, on fait bien le parallélisme entre ce fascisme qui monte et Adolphe Thiers, dont il faut d'ailleurs rappeler que Georges Huysmans a été pensionnaire de la Fondation Thiers, mais ça c'était autorisé à l'époque. Donc on fait le parallèle entre Versaillais d'un côté et Hitlérien des années 30.
Tout à fait. Donc d'ailleurs, ce terme de Versaillais est sans cesse repris tout au long de l'entre-deux-guerres par le Parti communiste pour désigner ses ennemis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les années 20, le terme Versaillais est accolé aux capitalistes, aux banquiers, aux dirigeants, etc. Et à partir avec la stratégie de Front populaire, la menace devient le fascisme. Mmh. Et donc les nouveaux Versaillais sont en effet les Hitlériens.
Mais Grand Alaïd, donc là, vous nous avez parlé, c'est plutôt votre mémoire de master, mais en fait, là, vous travaillez en thèse sur le Secours Rouge International, donc vous avez changé de sujet, et vous avez choisi notamment, justement, de ne pas travailler directement sur le Parti communiste, mais sur les mouvements qui sont autour, dans la mouvance, si je puis dire, du Parti communiste, et un mouvement extrêmement internationaliste, donc ce Secours Rouge International, si vous pouviez un peu nous en faire une petite synthèse, enfin nous expliquer quel est ce mouvement qui naît dans les années 20, en fait.
Oui, tout à fait. Donc c'est dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale et donc la création de la Troisième Internationale et des partis communistes, face à l'échec finalement de la stratégie révolutionnaire mise en place en Europe à ce moment-là, et face à la forte répression qui s'ensuit, le Comintern décide de créer lors de son quatrième congrès en 1922 deux organisations de secours, donc il est parfois difficile de faire la différence et dont les activités sont parfois en concurrence. Donc il s'agit d'un côté du Secours Ouvrier International et de l'autre côté du Secours Rouge International. Donc le Secours Ouvrier, lui, a dès le départ eu une vocation humanitaire et va mener des actions de solidarité en faveur des victimes des catastrophes naturelles, des famines, et va œuvrer principalement en faveur des enfants d'ouvriers grévistes et des chômeurs. Et le SRI, quant à lui, a une vocation beaucoup plus politique, affirmée dès sa création en 22. Donc cette organisation, en fait, est née en Russie de la fusion de plusieurs organisations de vétérans bolcheviques et de soutien aux victimes de la répression en Pologne, donc de ce qu'on appelait la terreur blanche, c'est-à-dire la répression anticommuniste. Et dès le départ, le SRI va se définir comme une organisation de classe, agissant en faveur des militants révolutionnaires, quelle que soit leur appartenance partisane, qui sont victimes de la justice bourgeoise.
Et des antifascistes, ensuite, décolonisés, enfin voilà, son rayonnement va s'étendre à tous les dominés et tous les... ceux qui ont besoin d'aide, finalement.
Tout à fait. Donc il s'agit en fait d'organiser à la fois sur un plan matériel, moral, mais aussi juridique et politique, la solidarité avec toutes les victimes de la lutte de classe. Et au-delà de la lutte contre la répression, le SRI est également attaché à la défense de l'URSS, à l'organisation de la solidarité avec les minorités nationales et à la solidarité avec les peuples coloniaux qui luttent pour leur libération. Donc la section française, elle, est constituée l'année suivante, en 1923. Et elle se dote d'un journal qui est La Défense, qui sort à partir de 1927. Et donc le Secours Rouge International en France va connaître un développement un petit peu chaotique à la fin des années 20, en atteignant 40 000 adhérents, puis en connaissant une stagnation de ses effectifs au début des années 30, suite aux différentes crises que connaît le mouvement communiste, et notamment les directions du mouvement communiste à ce moment-là. Et il y a en permanence une tension finalement entre à la fois la ligne stratégique de classe contre classe qui est défendue par le mouvement communiste international et les tentatives d'ouverture et d'élargissement de la base militante du SRI qui se veut une organisation ouverte à l'ensemble des militants, y compris non communistes.
Mais justement, quand arrive le Front Populaire, comment ça se passe ?
Alors, justement, au moment du Front Populaire, il va y avoir un grand changement d'orientation politique et stratégique, y compris du Secours Rouge, qui va changer finalement d'appellation à ce moment-là. Donc, durant l'année 1936, au printemps 36, le Secours Rouge International devient tout d'abord le Secours Rouge de France, puis devient...
c'est pas mal déjà comme changement, ça en dit long.
Devient à l'automne le Secours Populaire de France et des Colonies. Et donc, ce changement sémantique dans le nom de l'organisation illustre assez bien le tournant qui est opéré par le Parti communiste. Car comme l'a mis en évidence notamment Denis Péchanski dans son ouvrage « Et pourtant il tourne », sur l'étude du vocabulaire qui est utilisé dans les discours des dirigeants communistes, en fait, la notion de peuple remplace progressivement les références à la lutte de classe. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on passe de secours rouge à secours populaire. Mmh. Et dans la même dynamique, la référence internationaliste disparaît dans le titre au profit de l'affirmation d'un ancrage national et territorial à l'image de ce parti communiste qui désormais associe le drapeau rouge avec le drapeau tricolore, l'international avec la marseillaise.
Et qui met Jeanne d'Arc dans son panthéon personnel. En l'occurrence, Jean Vigreux, c'est extrêmement intéressant. C'est un travail de thèse que vous suivez, en l'occurrence celui de Corentin Lahut. C'est extrêmement intéressant de voir, par un cas très spécifique, comment effectivement le Front Populaire, mais la nouvelle stratégie du Parti communiste s'applique sur un cas comme celui-ci, celui-ci.
Oui, ça permet de comprendre à la fois le tournant à 180 degrés, hein, puisque quand même il faut le faire assez rapidement, mais comment la France...
D'internationaliste à national, en tous les cas.
D'internationaliste à national, en tout cas, peut-être celui-là, même si l'internationalisme reste, c'est plutôt le tournant à 180 degrés par rapport à social-fasciste, social-traite, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient les adversaires dans la logique classe contre classe. Et comment, en fin de compte, ça va irriguer de nouvelles pratiques et irriguer de nouvelles organisations qui viennent des organisations de masse, véritablement à ce moment-là, et qui rencontrent
aussi... Parce
qu'il
faut rappeler qu'en 1934, le Parti communiste, c'est quelques dizaines de milliers
C'est quelques dizaines de milliers d'adhérents. La CGTU est plus importante que le Parti. Et puis, bien sûr, l'envolée avec le Front Populaire, hein, la rencontre entre la nation et le parti. En fin de compte, c'est la nationalisation du PCF, le Front Populaire. C'est ça, les 72 députés, c'est la logique aussi de gain de municipalité en 1935. Il ne faut jamais perdre de vue aussi les premières élections du Front Populaire, les municipales, les cantonales. C'est la logique aussi de l'implantation, je dirais, au-delà de la couronne parisienne, mais dans d'autres bastions, c'est véritablement le grand moment. N'oublions pas que la CGT va atteindre en 37 4 millions d'adhérents. Donc, bien sûr, réunifié hein, avec 1936, mais on est dans une dynamique des partis, mais qui se trouve aussi dans la logique de bipolarisation dans les droites, chose que peut-être longtemps on avait oublié. Vous avez un parti de masse qui apparaît à droite, c'est le PSF, du lieutenant-colonel de la Roque, qui a plusieurs centaines de milliers d'adhérents.
Sur lequel d'ailleurs un livre vient de paraître très récemment.
Voilà, une nouvelle historiographie sur le sujet, mais à la fois les travaux qu'a fait mener Gilles Richard et Olivier Dard à d'autres moments restent tout à fait pertinents.
Alors, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il faudrait s'intéresser aussi à la façon, peut-être, Jean Vigreux, dont les populations vivent, mais presque intimement, ce Front Populaire au quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des changements considérables. Vous expliquez dans votre livre, vous expliquez combien il y a des oppositions, etc. Mais il y a aussi des gens qui changent, qui bougent pendant ces deux années de Front Populaire. Et qu'au bout du compte, ce que certains craignaient n'arrive pas, ce que certains espéraient n'arrive pas non plus. Et ça fait des micro-changements dans la façon de concevoir le monde aussi, Jean Vigreux.
Alors ça fait des micro-changements dans un regard que l'on peut avoir sur le monde, dans une anthropologie même, je dirais, classique. Quand on évoquait les congés tout à l'heure, ça change véritablement la vie. Les droits syndicaux, si les femmes n'ont pas le droit de vote, qui est l'un quand même des points aveugles du Front populaire, elles l'ont dans l'usine. Et donc, elles vont participer au processus politique, je dirais, d'une forme de politisation ou d'infrapolitique, peu importe, mais au sein de l'usine. Donc, on va avoir, bien sûr, des changements importants, des changements aussi liés, que l'on peut retrouver aussi avec, tout simplement, afficher des insignes, avoir des symboles, la symbolique, comment se diffuse en très peu de temps sur le territoire. Aujourd'hui, on dit que pour se diffuser, il faut les réseaux sociaux, un tweet, etc. etc. Mais j'invite à regarder les albums photographiques que l'on a de la période où l'expérience exposition, bien sûr, au musée d'histoire vivante de Montreuil, la symbolique du point levé, c'était connu, mais les photographies montrent bien que ça arrive très tôt, que c'est une diffusion qui arrive depuis 1934 d'Allemagne, hein, c'est le symbole antifasciste, anti-nazi d'Allemagne, qui est repris totalement, où on voit par exemple à Irancy, dans Lyon, le comité Amsterdam-Pleyel, les femmes et les enfants lever le point levé en 1935. Donc on est vraiment au cœur de changements et d'appropriation de symboles.
Et vous le sentez ce changement, quand vous suivez l'itinéraire d'un personnage comme Georges Huysmans, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de concevoir le monde, ou est-ce c'est moins frappant pour un personnage comme lui, qui est, rappelons-le, directeur général des Beaux-Arts entre 1934 et 1940, Hélène de Talouette?
Là, en vous écoutant, je repensais à Jean Gabin tout à l'heure. Et pourquoi on a cette mémoire comme ça? On l'a écouté chanter, on le voit, hein, en l'écoutant tout à l'heure, et parce qu'on voit son corps. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose du corps qui est extrêmement important, sociologiquement, et qui date encore une fois plutôt de la fin de la Première Guerre mondiale, et de la place des femmes dans la société, et qui, par exemple, quand on parlait de ces commandes de décoration murale par le gouvernement français, par l'État français, on est sur le thème, c'est art et loisirs. Hein, et donc, on est vraiment, par exemple, je ne sais pas, j'ai en tête la fresque qui est au lycée Hélène Boucher, là, dans le 12e arrondissement, où on voit des enfants qui dansent à la Isadora Duncan. Elles sont des petites filles qui sont dans la nature.
Magnifique,
avec
presque dans le hall d'entrée
qui est absolument superbe, qui n'est pas d'un modernisme absolument étonnant, mais qui est dans l'illustration extrêmement intéressante par rapport à ces questions de modernité et de changement sociologique qui étaient là
et
qui ont le droit de s'exprimer.
Et le soleil.
En 36, je crois que c'est vraiment collectivement, on assume ensemble qu'on a les cheveux courts, qu'on met des maillots de bain, qu'on va nager. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui, pour moi, est très fort et que j'ai vu.
Et ça, la découverte des corps, c'est toutes les photographies qu'on a avec les auberges de jeunesse, les jeunes qui font leur toilette ensemble, le début d'une sensibilité, d'un érotisme même. France de Mai, en particulier, à l'exposition,
on le voit,
ces photos.
Ouais. Ouais. Et attention, c'est évidemment pas les sculptures d'Arnaud Brecker. Il faut être très très vigilant.
Tu m'avais dit un samedi, demain c'est le jour des folies. On a 20 ans et le printemps chante l'amour, chante la vie. Quel beau dimanche que celui-là, la route est blanche, tu prends mon bras, tu sais me dire dans un sourire l'amour que je t'inspire. Tout est en fête sous le ciel bleu, lourde est ma tête près de tes yeux. Si tu te penches, Dieu, quel émoi! Quel beau dimanche que celui-là.
Voilà, quel beau dimanche de Lise Gauthier. Il faudrait peut-être aussi travailler sur la question de la répartition de la semaine de travail, comment cela a joué aussi dans les arts sur la valorisation du samedi et du dimanche et de ce qu'on n'appelait pas encore le week-end à ce moment-là. Merci à vous, Jean Vigreux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'Histoire du Front Populaire, une synthèse donc sur l'historiographie contemporaine du Front Populaire chez Talendier, avec un sous-titre qui s'appelle L'Échappée Belle. On espère vous lire en livre un jour, puisque votre thèse a été soutenue l'année dernière, Hélène de Talouette. Merci d'être venue avec nous.
Dire quand même que j'ai un projet de livre aux belles lettres.
Voilà,
arriver.
On attend donc avec impatience. Et merci à vous, Corentin Lahut, d'avoir été avec nous depuis les studios de Radio France à Besançon. Et on vous souhaite une bonne thèse, puisque vous avez bien commencé.
Ma tête est blanche.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marcet, Bruno Gagné à Fontanier était avec nous à la technique, et Séverine Cassard à la réalisation.